Prions. Ô Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette occasion que tu nous donnes ce matin d'être à l'écoute de ta parole. Nous constatons déjà, Seigneur, la cohérence de ta présence dans ce que nous avons déjà entendu, Seigneur, que ce soit la présentation par notre frère Daniel, le choix des chants, les prières des uns et des autres. Seigneur, tout est cohérent et nous te remercions parce que ta parole aussi, elle est cohérente. Et nous te remercions parce que, encore ce matin, tu veux nous éblouir, Seigneur, par la beauté de ta parole. Ô Seigneur, que ta parole vraiment nous éclaire, qu'elle nous parle et que nous puissions aussi ouvrir notre cœur pour la recevoir et aussi pour lui obéir. Merci Seigneur, à toi la gloire, en ton nom. Amen. Voilà, chers amis, c'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous après aussi longtemps et de vous retrouver dans la présence du Seigneur. J'avais à cœur ce matin de vous parler de ce sujet vraiment très important, la vocation de l'Église. C'est impossible de parler sur un sujet pareil en une demi-heure. Le sujet est trop vaste. Donc, je vais me borner à quelques aspects essentiels et j'espère que cela nous éclairera. Notre première lecture sera dans Éphésiens. Éphésiens est l'épître de l'Église, parce que le mot « Église » s'y trouve 9 fois pour seulement 6 chapitres. Donc c'est vraiment essentiel dans cette épître. Et nous disons « marcher de manière digne de la vocation qui vous est adressée ». Et dans ce 4e chapitre. Et le contexte, c'est vraiment l'Église. Il y a un seul corps au verset 4, un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, le mot « vocation », selon la version seconde, ne se trouve que dans ces 2 versets par rapport à l'Église. Et l'Église est donc une vocation, et il est important pour nous de rappeler quelle est cette vocation afin de progresser dans le plan de Dieu. Le mot « vocation » vient du latin « vocare » qui veut dire « appeler ». Le mot grec employé, c'est « kletis » qui veut dire « appel ». Et vous reconnaissez dans le mot « kletis » le mot « ecclesia » qui a la même racine « clé ». En effet, « ecclesia » veut dire « assemblée, appelée, horde ». Et c'est le mot « ecclésia » qui a donné le mot français « église ». Donc dans la littérature profane grecque, même avant l'existence de l'Église, le mot désignait une convocation de gens pour se rassembler dans un but précis, par exemple un parlement. Les gens étaient appelés hors du peuple pour former une assemblée pour gouverner le peuple. Alors, il y a eu 2 siècles avant Christ une version grecque de l'Ancien Testament qui a été traduite par 70 traducteurs. C'est pourquoi on l'appelle la version des 70. Ils ont travaillé à cela 2 siècles avant Jésus-Christ pour traduire l'Ancien Testament en grec. Et donc, ils ont traduit le mot hébreu « kahal », qui veut dire « assemblée » ou « foule », et ils ont traduit par « ecclésia » déjà. Donc, le mot « église » était déjà, dans la parole de Dieu, d'une certaine façon, 2 siècles avant l'Église. Alors, c'est un sujet très vaste, bien sûr, et quelqu'un parmi nous, durant sa louange, a loué le Seigneur pour l'Église universelle. Et ça m'a étonné, parce qu'on parle souvent de l'Église universelle, au singulier et avec une majuscule, parce qu'elle est unique. C'est l'épouse de Christ, dont Dieu seul connaît la liste des membres. crois que ça, c'est important de souligner que la liste des membres, c'est Dieu qui la connaît. Puis, à côté de cela, il y a les églises locales et, d'une certaine façon, il y a comparaison, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas prendre l'une pour l'autre, parce que les églises locales sont nombreuses. Et parmi elles, il y a les églises protestantes et il y a notre église à nous. Chacune a ses spécificités. Parfois, il y a une église locale qui se prend pour l'église universelle. Et c'est un drame. C'était le cas de l'église romaine. Certains prennent leur liste de membres comme étant la liste de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'église ne désigne jamais un bâtiment. L'église désigne toujours un groupement de personnes. Il y a plusieurs références, Romains, Corinthiens, Colossiens, qui parlent de l'église qui est dans la maison. L'église n'est pas la maison, mais dans la maison. Alors nous avons vu la magnifique église, la cathédrale Saint-Paul à Abidjan, qui est un chef-d'œuvre architectural. Mais l'architecture n'a jamais été la vocation première de l'Église au sens néo-testamentaire. L'Église n'avait pas non plus, comme à l'heure actuelle, vocation de faire de belles cérémonies pour les mariages ou pour les enterrements ou autres cérémonies. La communauté n'était pas non plus un club de rencontres. Donc, il y a quelques considérations fondamentales auxquelles nous devons réfléchir. Quelle est la vocation de l'Église selon le Nouveau Testament? À quoi est-ce que l'Église est appelée? Quelle est sa destinée? Et le premier but de l'Église, c'est évidemment, selon sa définition, rassembler les appelés. Appeler hors d'eux. Rassembler les appelés qui sont appelés hors du monde et qui sont appelés pour rencontrer le Seigneur. Et l'idée se trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53 même, qui nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, etc. » Et il est dit au verset 10, au sujet de Jésus-Christ, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc Christ aura une postérité et il prolongera ses jours. Une postérité, c'est-à-dire il aura une famille. Christ a donc des enfants et ses enfants doivent se rassembler. Et le rassemblant s'appelle l'Église. Jésus-Christ lui-même annoncera la fondation de l'Église. Dans Matthieu 16, le verset 18, il dit « Je bâtirai mon Église », le verset est bien connu. Suite à cette déclaration qui est solide de Pierre, inspirée par Dieu, quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Alors, l'Église est donc l'ensemble des gens qui connaissent Christ comme Sauveur et Seigneur, qui sont transformés par le don de l'Esprit. L'Église existe en vue de recevoir, de rassembler les appelés. Et l'Église commence à la Pentecôte, lorsque l'Esprit est donné à l'Église naissante dans Actes 2, puis nous voyons le développement dans tous les Actes des apôtres. Et l'idée se trouve donc aussi dans l'Ancien Testament, parce que la notion d'appel de Dieu pour qu'un homme vienne à lui se trouve dans toute la Bible. Déjà dans la Genèse, au chapitre 3, le premier appel est dans Genèse 3, le verset 9. L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» L'Éternel appela l'homme. Et le dernier appel se trouve dans Apocalypse 22, quand il est dit, l'esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui entende dise « Viens !» que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, dans Exode 3, nous avons cette magnifique histoire de l'appel de Moïse devant le buisson ardent, où Dieu le charge de cette mission. Et Dieu lui dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Appelé hors d'eux. Mission difficile pour Moïse, qui exprime toutes ses frustrations. Le passage est magnifique dans Exode 3, devant le buisson ardent. Il ira jusqu'à la colère de Dieu, mais finira par accepter l'appel de Dieu. Et la première chose qu'il dira au Pharaon, c'est « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Une fête en mon honneur. Ça exprime à quel point le rassemblement du peuple de Dieu est un sujet de joie pour Dieu et aussi pour le peuple. La Bible nous parle souvent de joie en présence de l'Éternel. Il y a d'abondantes joies devant ta face, nous dit le psaume 16. Et dans Exode 33, le peuple est appelé nation. Dans la prière de Moïse, quand il dit « Considère que cette nation est ton peuple ». Et une nation est aussi une assemblée humaine qui a beaucoup de choses en commun. Ces gens ont la même terre, le même langage, la même origine. Ils sont tous natifs, ils ont la même origine et ça s'applique aussi à l'Église. Nous avons la même origine, la nouvelle naissance. Nous avons les mêmes intérêts, nous croyons au même Dieu. Et c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il y a un parallélisme extraordinaire entre le premier peuple de Dieu et le nouveau peuple de Dieu qui sont les chrétiens. Et Étienne, dans son discours de Acte 7, parle de l'assemblée du désert, c'est-à-dire l'ancien peuple de Dieu. Et il emploie le mot « ecclésia » pour désigner l'assemblée du désert, acte 7, 38. Cela est vraiment étonnant. Israël est donc appelé hors de l'Égypte pour se rassembler et préfigure par là l'Église. Une fois l'Égypte quittée, une fois la mer Rouge traversée, chacun pouvait aller de son côté, mais ce n'était pas la vocation de Dieu pour son peuple. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament cette volonté de Dieu de rassembler les enfants. Jésus a dit dans Jean 10, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, le Seigneur fait cette prière. Je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et même dans Matthieu, Jésus avait dit, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Quelle image merveilleuse le Seigneur emploie pour montrer l'unité de l'Église. Alors, assumer la vocation de l'Église est un but important dans la vie du chrétien. C'est même notre responsabilité, comme il est dit dans Hébreux 10, n'abandonnons pas notre assemblée. Nous sommes appelés à avoir cette vocation, appelés hors d'eux pour le rassemblement. Il y a un deuxième aspect très important pour la vocation de l'Église, c'est le service. Toujours ce beau vitrail de l'église de la cathédrale Saint-Paul à Abidjan qui montre l'importance du rôle de l'église et de l'évangile pour la population, pour la société et pour la nature. Et il y a donc un aspect de service très important pour l'église. Dans Acte 13, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius de Cyrène, Manahen et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Tous ces mots, je les ai soulignés parce qu'ils sont importants. Ils servaient, il y avait un ministère, il y avait une œuvre. Ces mots sont forts. Nous sommes appelés à servir. On voit que dans les Actes des Apôtres que l'Église devient une véritable influence dans la société, avec des actions sociales remarquables comme la distribution de nourriture, la collecte pour les pauvres. À travers toute l'histoire, le christianisme a joué des rôles très importants dans la société, parfois aussi des influences douteuses qui, avec le temps, ne sont plus comprises, comme les croisades, les colonisations. Et souvent aussi, l'Église est totalement absente dans les grandes réformes de la société. Encore aujourd'hui, on constate parfois le silence coupable de l'Église, comme le dit un chant de Exo. Quant à l'influence politique de l'Église, cela demande beaucoup de discernement. On se trompe parfois en votant pour un candidat en tant qu'Église. Ce qui fait dire à certains que religion et politique ne font pas toujours bon ménage. Mais le christianisme reste la conscience de la société. Et quelqu'un a dit, si l'Église ne sert, elle ne sert à rien. Et cela est vraiment regrettable. Dans toute l'Église, il y a toujours un noyau de personnes qui sont très motivées. Parfois, on les compte sur une main. Puis autour gravite le reste de l'Église qui n'a pas encore trouvé son rôle. Et c'est un grand souci. Déjà du temps de Jésus, c'était ainsi. Autour de Jésus, il y avait plusieurs cercles. Il y avait d'abord Pierre, Jacques et Jean. Puis il y avait les 12 apôtres. Il y avait les femmes autour qui jouaient un grand rôle. Il y a eu les 70 qu'il a envoyés en mission. Puis les 100 qui sont également envoyés. Il y a eu les 120 à la Pentecôte. Il y a eu mieux, il y a eu 500 frères qui ont été témoins de son apparition après la résurrection et dont parle 1 Corinthiens 15, le verset 6. Alors la question qui se pose, dans quel cercle voulons-nous être? Voulons-nous être près du Seigneur ou éloignés du Seigneur? C'est un peu comme les atomes dans les électrons autour des atomes. Plus l'électron est proche du noyau, plus il est attaché au noyau et plus il est éloigné du noyau, plus il passe d'un atome à l'autre. Et c'est ce qui fait le courant électrique. Donc l'Église est constituée d'appelés qui ont une vocation de servir. Et beaucoup de gens n'assument pas cette vocation. On a vu ici l'image des Vikings qui est quand même magnifique. Comment ces gens réussissaient à mettre tout le monde au travail. C'est déjà mieux quand nous sommes nombreux à ramer que quand on est seul. Alors, chacun était à sa place. Tout le monde ramait, qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas du vent. Mais le bateau avançait. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés jusqu'en Amérique. La force du commun accord. Alors voilà, j'aimerais avancer avec un troisième aspect de la vocation de l'Église, qui est l'édification. C'est le plan de Dieu pour nous. Et comme il est dit dans 1 Pierre 5, le verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ce perfectionnement est la vocation de l'Église, c'est tout à fait étonnant. Paul compare l'Église au corps de Christ dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, le passage est bien connu. Il décrit les dons spirituels qui se manifestent dans l'Église pour l'utilité est pour l'édification commune. Personne ne possède tous les dons. Chacun a donc besoin des dons des autres. Aucun chrétien ne peut s'épanouir seul, en autarcie, en solitaire. L'Église est comme un corps. Aucun organe ne vit seul. Il est dit au verset 12 de 1 Corinthiens 12, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Et c'est vrai qu'il y a trop de chrétiens solitaires. Ils disent appartenir à l'Église universelle peut-être. Et leur slogan c'est « Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant ». Combien de fois nous entendons ce raisonnement? Le théologien Hermann Bavinck a dit cette belle réflexion « Le chrétien qui s'isole de l'Église devient comme une branche qui est coupée de l'arbre, comme un organe séparé du corps. Il est destiné à périr. » Et voici une autre citation de ce grand théologien hollandais qui est encore fort méconnu en francophonie, alors que toutes ses œuvres sont traduites en anglais. « Ce n'est qu'en la communion des saints que l'on peut comprendre pleinement la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Il fait allusion à Éphésiens 3, le verset 17. Et l'autre jour, c'est avant le Covid, j'ai rencontré un chrétien que je n'avais plus vu depuis 40 ans. Et je lui pose spontanément cette question, mais on ne se voit plus. Où est-ce que tu vas à l'église? Et il me dit, mon église, c'est la parabole. Alors, je lui dis, pardon. Et il m'explique, j'ai une parabole et je capte la meilleure église aux États-Unis. J'ai le meilleur prédicateur. Chaque fois, j'ai le meilleur des cultes, la meilleure chorale, les plus beaux témoignages. Et c'est magnifique. Et alors, ça m'a fait réfléchir parce que moi-même, ici avec le Covid, j'ai parfois zappé d'une église à l'autre sur Facebook. Et ainsi, je passais d'une église à l'autre jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me corresponde à ce moment-là. Et je crois que le Covid nous a encouragés un peu dans cette mentalité parce que l'église est une famille avant tout. C'est une famille spirituelle, et dans cette famille, il y a des parents, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a un père, il y a des enfants. On sait qu'un enfant qui est élevé dans une famille qui n'est pas unie ou qui a des problèmes, eh bien, cet enfant est perturbé parce qu'un enfant, pour être épanoui, il a besoin d'une famille. Il a beau appartenir à la grande famille humaine, s'il n'a pas une famille locale dans laquelle il peut s'épanouir, c'est dramatique. J'ai connu un pasteur qui disait « Mon église, c'est un hôpital. » Alors tellement il y avait des malades dans son église, surtout des dépressifs. Et puis, malgré cela, il restait positif. Il disait, ça tombe bien. Ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. C'est les malades qui ont besoin du Seigneur, plus que les autres. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette réaction positive de ce frère. Et je crois qu'il avait raison. L'Église est un hôpital où on soigne les malades. On prie pour eux, ils reçoivent des soins, ils reçoivent la cure d'âme. L'Église est un lieu de guérison, de relation d'aide, un lieu où il y a des délivrances par la présence et par l'action de l'Esprit. C'est un endroit de progrès spirituel, de transformation, de délivrance, oui. Quelle merveilleuse vocation pour l'Église locale. Et puis l'Église, c'est un lieu d'adoration, comme nous avons fait ce matin. Encore un magnifique vitrail du naufrage de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici aussi, nous avons des beaux vitraux, les quatre évangélistes. Alors, pour l'adoration, dans Hébreux 12, il est dit « Recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. » Donc, exprimer la reconnaissance est un culte agréable à Dieu et c'est la vocation de l'Église. Si vous voyez quelques versets plus haut, dans Hébreux 12, au verset 18 à 21, l'auteur résume combien le culte de l'ancien peuple de Dieu était difficile. Il dit, c'est une montagne qu'on ne pouvait pas toucher parce qu'elle était embrasée par le feu. Même un animal ne pouvait pas s'en approcher. Moïse lui-même était épouvanté et tout tremblant. Et puis, il conclut au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, vous, le nouveau peuple de Dieu, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà la vocation finale de l'Église qui est l'adoration éternelle. Jésus aussi parle de la vocation du christianisme à exercer l'adoration lorsqu'il parle à la femme samaritaine. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En deux versets, cinq fois, adoré et adorateur. Donc l'heure est venue, c'est ce que Christ annonce, l'heure est venue pour la dispensation de l'Église, où Dieu demande l'adoration, c'est la vocation de l'Église. L'Église est le corps de Christ, l'habitation de l'Esprit. Comment peut-on rester insensible à la merveilleuse présence de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui descend sur son peuple? Et cette gloire de Dieu est déjà assurée lorsque deux ou trois sont assemblés en son nom. Matthieu 18, 20. Et c'est ce que Jésus aussi rappelle dans la Sainte Cène, où le sacrifice de Christ est rappelé dans toute sa dimension. Alors, c'était une des caractéristiques des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Nous lisons dans Actes 2, au verset 46 et 47, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. » Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce passage aussi nous amène à un cinquième point, ce sera mon dernier point. Ici sur le vitrail, vous voyez la conversion de l'apôtre Paul, comme aveuglé par la lumière, il tombe de son cheval sur le chemin de Damas. Magnifique, j'ai trouvé ce vitrail. Alors, l'évangélisation. L'évangélisation est la vocation de l'Église. L'évangélisation se fait par l'Église et pour l'Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est étonnant dans la parole de Dieu que l'Église est souvent appelée l'épouse de Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Le mot communion, koinonia en grec, qui veut dire partage, communion, partage. C'est vraiment l'idée d'avoir des biens communs, comme dans un mariage. Tous les avantages du Fils, son héritage, ses avantages, son ciel, sont partagés. Nous sommes partagés. Nous sommes co-héritiers avec Christ, nous dit Romains 8, le verset 17. L'Église est donc une assemblée autour de Jésus, en communion avec lui, en attendant les noces de l'agneau. C'est Alain Choquier qui a dit cette belle phrase. Évangéliser, c'est aller chercher l'épouse de Christ. Même dans l'Ancien Testament, on est toujours étonné de voir la cohérence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais le peuple d'Israël est parfois comparé à l'épouse. Dans Jérémie 3, il est dit « Comme une femme infidèle, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. » Et Ésaïe 54 dira encore mieux « Ton Créateur est ton époux. » Donc, il y a dans la Bible plusieurs passages où le peuple d'Israël est comparé avec l'époux. Et il y a aussi une merveilleuse histoire dans Genèse 24. Là, il faudrait qu'on travaille tout le chapitre, mais on n'a pas le temps. Mais c'est l'histoire où Abraham envoie son serviteur Éliézer dans sa famille pour chercher une femme pour son fils Isaac. Vous vous rappelez de cette merveilleuse histoire? Et cet homme, Éliézer de Damas, n'avait pas une tâche facile, mais il a pris sa mission à cœur. Et il a vraiment prié Dieu pour le diriger et réussir dans sa fonction très au sérieux. Et il reviendra avec Rebecca. Alors, chercher l'épouse du maître, c'est notre vocation. Paul dira « Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je ne réussis pas dans ma vocation. » Abraham avait dit « Si la fille refuse de te suivre, tu seras dégagé de ce serment. » Et Jésus aussi a dit à ses disciples quand il les a envoyés « Lorsqu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et secouez la poussière de vos pieds. » On nous dira souvent « Non, ça ne m'intéresse pas. » Mais l'appel est lancé. On est quitte de notre responsabilité. Éliézer n'a pas pris Rebecca pour lui. Il a dit qu'elle était très belle de figure. Et certains évangélistes cherchent à faire des adeptes plus pour leur mouvement que des convertis pour le Seigneur. Et dans Éphésiens, il nous est dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour la faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Un jour, nous serons tous aussi beaux et belles de figure. À la fin du chapitre, dans Genèse 24, le verset 67, il est dit que Isaac fut consolé de la perte de sa mère. Consolé. Voilà l'image de l'impact du consolateur promis, le paraclet, l'Esprit Saint. Alors puisse le Seigneur faire de nous des Éliézer engagés par serment pour chercher l'épouse du Christ. Paul emploiera aussi cette terminologie et dira « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Dans 2 Thessaloniciens, il dit « Il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'évangélisation est donc un appel. Il n'y a pas d'évangélisation sans appel. Et voilà encore une leçon importante pour nous aujourd'hui, parce que on présente souvent l'évangile de différentes façons, plus acceptables pour l'homme moderne. Quel évangile pour l'homme moderne? Si l'appel est absent, c'est une grande lacune. Le salut est un appel. Kletos, appelé hors du monde, appelé vers Ecclesia, vers l'Église. L'Église est composée d'appelés. La vocation de l'Église, c'est d'appeler jusqu'au dernier. Alors viendra la fin. Les noces de l'agneau pourront se fêter avec les appelés, selon Apocalypse 19, où il nous est dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors pour conclure, il y a là un appel pour chacun d'entre nous. Christ nous appelle à être des acteurs, pas seulement des spectateurs. Et il est dit dans l'Évangile, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. C'est l'un ou c'est l'autre, l'Église doit assembler, sinon elle disperse. L'Église doit avoir cette capacité d'accueil, de chercher les perdus, pour qu'ils fassent partie de l'assemblée. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alors certaines portes d'église restent désespérément fermées. Il faut le dire, il y a des églises qui sont totalement barricadées dans leur règlement, dans leurs traditions, dans leurs habitudes. Même des églises réformées qui n'attirent personne parce qu'il n'y a personne qui vit sa foi avec spontanéité. Tout est une question de tradition, d'habitude. Il n'y a aucun sourire, il n'y a aucune joie, il n'y a qu'austérité. Le théologien Hermann Bavinck, dont on a parlé, a combattu à l'époque cette mentalité au début du siècle passé. On l'a appelé le réformateur de la réforme. Il a dit cette belle phrase, le dogmatisme est aussi nuisible que l'absence de dogme. Et c'est vrai que le légalisme peut être un fléau, tout comme l'absence de tout dogme. Dans l'universalisme ou le libéralisme, très en vogue dans le protestantisme actuellement. Mais l'Église est le sel de la terre, le goût. Alors si le sel est enfermé dans une salière, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Il s'agglomère, il s'y forme des blocs, des clans opaques, et puis le sel ne sort plus de la salière. Idéalement, le sel doit être en transit dans la salière. Et parfois, Dieu doit dévisser la salière pour que le sel se répande. Et c'est ce qui s'est passé à l'église de Jérusalem dans Actes 8, quand il est dit qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et beaucoup d'églises se sont formées à partir de ce moment. Et c'est étonnant que la division servait à la multiplication. La division n'alimentait pas la séparation. Et on voit que dans les actes des apôtres, tout est propagande. Il y a une guérison, c'est la propagande. Il y a une délivrance, il y a une persécution, un emprisonnement, un naufrage, tout sert à la propagande de l'Évangile. Et Dieu nous appelle à être pleinement conscients de notre vocation en tant qu'Église, en tant que nouveau peuple de Dieu, en tant que famille de Dieu. Nous avons une appartenance, une identité, une destinée, une raison d'être. Alors oui, Que Dieu nous aide à être pleinement participatifs à la vocation de l'Église selon son plan d'action parmi nous. Prions. Seigneur, Dieu créateur de l'univers, tu es aussi le concepteur de l'Église. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous sommes émerveillés de voir la cohérence dans ta parole. L'Église, c'est ton idée, déjà dans l'Ancien Testament. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir négligé ton Église. Le Covid, Seigneur, nous a obligés à prendre distance. Nous voulons reprendre goût à ta famille. Nous voulons reprendre goût à la vocation à laquelle tu nous as appelés. Aujourd'hui, oui, Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Oui, Seigneur, tu nous as appelés et nous répondons favorablement. Nous voulons pleinement faire partie de ce rassemblement auquel tu nous appelles. Oui, Seigneur, nous voulons que notre Église serve notre société. Accorde-nous, Seigneur, de ne pas négliger, de ne négliger aucune occasion que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous voulons grandir, nous édifier ensemble, progresser dans tes voies, guérir, être remplis de toi jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons apprendre à t'adorer, que ta louange nous habite, nous remplisse. Que la reconnaissance envers Dieu nous caractérise. Oui, Seigneur, nous voulons évangéliser. Ce monde t'ignore encore. Nous voulons être des Éliézer qui cherchent l'épouse pour notre Seigneur. Et Seigneur, donne-nous des idées. Donne-nous des idées, Seigneur, pour réussir dans notre tâche, afin que beaucoup d'âmes soient consolées par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, ce sont des belles perspectives que tu nous offres. Nous voulons saisir ces occasions. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons suivre tes voies. Merci Seigneur. Nous t'avons prié en ton nom. À toi la gloire. Amen. Amen. Amen.